Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Merci à vous qui nous rejoignez. Je suis en compagnie de Philippe Braz, écrivain. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et je suis également en compagnie de Patrick Varin qui représente Trajet Spectacle Nos Voisins.
Trajet Spectacle, Peuple et Culture.
Bonjour à tous les deux. Philippe, si vous êtes en ce moment dans le Diwa, c'est dans le cadre d'une résidence avec le festival Est-Ouest qui fait suite au festival de l'année dernière, donc qui concernait la Grèce, le mythe, les hommes, les dieux, pour réaliser notamment une série d'ateliers auprès des collèges, c'est ça ? Je vais vous laisser préciser en fait.
Oui, effectivement, moi je viens suite à une rencontre avec Harold David autour d'une possibilité de résidence d'écriture qui aborderait le thème de la mythologie, de la réécriture des mythes. Il m'a proposé de venir donc dans le Diwa, à Di et à Cré, pour animer des ateliers d'écriture en première donc à Cré, première S et première L à Di. Et donc j'ai rencontré effectivement les enseignants, on s'est mis d'accord sur des thèmes, sur des thématiques, sur des consignes d'écriture que je donne ensuite aux jeunes gens qui travaillent, et il y aura un rendu de toutes ces propositions, de tous ces textes au mois de mai donc qui sera donc une mise en espace, une mise en lecture par les jeunes eux-mêmes des propositions faites lors de cet atelier par les élèves.
Et donc on entend bien résidence, c'est-à-dire au théâtre de Die. Et résidence, ça veut dire qu'en même temps, il y a une pratique d'écriture personnelle qui se fait aussi, puisqu'en résidence, on doit créer.
Ça, c'est effectivement, ça concerne un certain nombre d'heures dans la semaine qui est tout à fait raisonnable. Le reste du temps, je l'utilise à l'écriture donc, d'une nouvelle pièce de théâtre, et je l'utilise également à la préparation d'une performance poétique que je vais donner à Paris le 23 et le 24 mars, donc qui s'appelle « Usedom Oratorio » avec Brigitte Atea et Marcus Lang, donc un collectif 50-50, collectif d'artistes entre Berlin et Paris.
Patrick, toi tu es ici parce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe avec Trajet Spectacle.
Oui. Oui,
et,
oui.
Et maintenant, je vais te laisser la parole pour nous présenter cet écrivain et nous présenter aussi l'activité qu'il y a avec Trajet Spectacle, Peuple et Culture.
Oui, je me garderai bien de présenter Philippe en sa présence comme ça.
Faire,
par contre, effectivement, je vais tout à fait l'inviter à le faire. Pour un petit peu situer les choses, donc tu es arrivé il y a peu de temps, donc le fin février. Là, la résidence, en fait, est une résidence assez courte puisqu'elle se déroule jusqu'au 6 avril, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà, à l'invitation donc du festival. Mm-hmm. Avec donc effectivement ces ateliers d'écriture qui vont se dérouler, d'une part. D'autre part, le travail que tu as indiqué te concernant, enfin plus personnel,
oui, oui.
Donc écrivain. Mmh. Et troisièmement, on a effectivement imaginé avec le festival de profiter de ta présence pour que tu puisses participer avec nous au Printemps des Poètes, qui est un événement national soutenu par le ministère de la Culture. Compte tenu de ce qu'on avait pu se dire à différentes occasions précédemment, on a eu particulièrement envie, d'organiser des rencontres littéraires avec toi prochainement, puisque ça aura lieu le 9 et le 10 mars prochain, tout bientôt. On va rentrer un peu plus dans le sujet, dans ton travail. Bon, on te connaît alors à Trajet Spectacle, Peuple et Culture, par le biais du festival, hein, puisque donc Philippe Braz a eu l'occasion de venir à Die plusieurs fois, pas que au dernier festival, mais précédemment.
Non, oui, je suis déjà venu en 2008.
Et on s'était rencontrés à cette occasion-là,
voilà,
d'ailleurs. Depuis, il y a un partage et il y a du côté de Trajet en tout cas, une découverte d'abord de ton œuvre. Et puis progressivement, une immersion par différents biais qui a donné lieu à des travaux qui sont en cours, puisque l'atelier théâtre de Trajet a monté des lectures à voix haute. Je pense que c'est le dernier livre publié de ta part.
Transit.
Non,
Offshore
donc
ensuite.
Alors vas-y, présente-nous où tu en es par rapport effectivement à tes livres.
Je suis auteur de théâtre essentiellement, c'est-à-dire que j'ai écrit une douzaine de pièces de théâtre qui sont édités pour la plupart aux éditions Le Bruit des Autres, qui est un éditeur de poésie et de théâtre qui se trouve à Limoges, et également aux éditions Dialogue La Fontaine, qui se trouve à Lille, donc qui est un éditeur de théâtre exclusivement. je me dirige a priori vers le théâtre et la poésie. Et là, j'ai fait une récente incursion dans le domaine du roman en écrivant un premier roman qui s'appelle Odysseus, qui va être présenté donc à l'occasion de cette rencontre que nous faisons avec Cossy et Fouy, voilà, le 9 et le 10 mars.
Et dont nous attendrons après, bien sûr, la publication, l'édition, on l'espère, dans les mois qui suivent.
Voilà, absolument.
Parmi tous ces ouvrages, il y a eu effectivement une première présentation dans le Diwa Châtillon dernièrement de lecture à voix haute de Transit, donc par le groupe théâtre. On espère bien continuer, on espère bien également le présenter en ta présence d'ici la fin mars. On est en train de s'organiser dans ce but-là. Et d'autre part, il y a également le groupe littérature de l'association s'est aussi emparé de ton œuvre et de l'ensemble des livres qui sont à notre disposition pour lire. Ah, et donc, ça fait quand même un certain nombre de personnes autour de nous là qui, effectivement, depuis quelques mois, et voire plus pour certains, te connaissent par l'intermédiaire de tes livres.
Et j'en suis ravi. C'est vrai que j'ai un accueil formidable dans le Diwa. C'est vraiment très très agréable de rencontrer des acteurs, des metteurs en scène, des directeurs de festivals, des directeurs d'associations littéraires qui se passionnent pour un travail, pour une œuvre, qui effectivement rebondissent sur des thématiques pour lesquelles il y a une adéquation. Je me sens bien ici, c'est vrai que c'est très agréable.
À quel moment est-ce qu'un auteur de théâtre ou de poésie ou de roman sort de cette manière de l'ombre ? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à souvent ?
Dans le théâtre, il y a deux aspects. Il y a l'aspect publication et il y a l'aspect théâtre, l'aspect théâtral, l'aspect scénique, on va dire. Et donc, il faut, en tant qu'auteur de théâtre, arriver à être joué à un moment. Et c'est à partir du moment où on a été joué qu'on est édité, en général, puisque l'édition de théâtre ne se vend pas en dehors des amateurs de théâtre. C'est un genre littéraire qui est assez peu distribué en librairie. Souvent, dans le fond de la librairie, il y a un rayon théâtre un petit peu caché. Il faut effectivement trouver un metteur en scène, trouver une équipe de théâtre qui commence tout un travail de mise en scène, un travail scénique. Et là, ça peut être effectivement le début d'une aventure théâtrale, une aventure d'écrivain de théâtre.
J'entends un petit peu le fait qu'il faut trouver. Alors, il faut trouver, c'est-à-dire l'auteur doit trouver ça ou...
Oui, au début, en tout cas. C'est pour cela qu'il y a énormément d'auteurs de théâtre qui sont du métier, on pourrait dire, qui sont des comédiens, qui sont des metteurs en scène eux-mêmes, qui sont parfois régisseurs spectacle. Donc, effectivement, ils ont accès à la scène d'une manière relativement aisée par rapport à des écrivains qui sont des littéraires purs. Moi, j'étais effectivement, quand j'ai commencé, absolument éloigné du monde du théâtre. Et j'ai eu la chance de rencontrer des metteurs en scène à Paris, donc, qui ont lu ma première pièce, La Nuit des baleines, qui ont eu un coup de cœur pour cette pièce. Et petit à petit, les choses se sont faites donc, par des mises en scène. Ça a été monté et ensuite c'était publié. Et donc la publication permet effectivement de démultiplier le nombre de lecteurs potentiels et le nombre aussi de metteurs en scène potentiels. Mes pièces sont jouées parce qu'elles sont éditées. Et elles sont éditées parce qu'elles sont jouées aussi, mais surtout, elles sont jouées parce qu'elles sont éditées.
Pour poursuivre avec ce qu'avait un petit peu lancé Patrick, quel effet ça fait, là, en l'occurrence, d'être pris, dont l'œuvre est prise par des gens qui, a priori, soit ont des affinités avec le spectacle, ou pas forcément, mais en tout cas, s'emparent de l'outil en dehors d'une scène de théâtre.
Alors,
il y a deux expériences qui se mêlent, là, effectivement. Il y a d'une part l'expérience concrète de la pièce jouée, effectivement, de la relation qui s'opère à ce moment-là entre l'auteur et le metteur en scène, enfin les comédiens, etc., et le public, et un public, donc comme spectateur, d'une part. Et d'autre part, il y a effectivement l'expérience de l'auteur écrivain avec ses lecteurs. Et donc là, en l'occurrence, pour nous et pour les gens du Diwa, c'est la relation pour le moment, elle s'est faite uniquement par le biais de la lecture, en tout cas dans un premier temps, puisqu'on connaissait les gens connaissaient absolument
pas
tes spectacles.
On n'a pas encore eu la chance de pouvoir jouer non plus.
Oui. Donc qui a donné le goût et l'envie, notamment avec Delphine Baralotto, qui donc avec nous s'est emparée notamment de Transit, de pouvoir rentrer dans le texte et dans ton écriture par la lecture.
Oui. Alors effectivement, j'avais déjà eu cette expérience d'une rencontre littéraire qui débouche sur une rencontre théâtrale avec une association qui s'appelle Tu connais la nouvelle, qui est à Saint-Jean-de-Bray, donc dans l'Orléanais, autour d'un théâtre, des rencontres de nouvellistes parce que j'écris aussi des nouvelles, des rencontres de nouvellistes et d'auteurs de théâtre et d'une équipe de théâtre. Et donc là, effectivement, autour de ma littérature, il a pu y avoir une rencontre de metteurs en scène, de comédiens, qui a débouché sur, par exemple, le Destin de Juliette, ma pièce Le Destin de Juliette, qui est à l'origine une commande donc de Gérard Audax, directeur du Théâtre Clin d'œil à Orléans. Une commande pour un monologue de femme, et je viens d'apprendre que donc Delphine met en scène cette pièce maintenant.
On a des scoops tous les jours parce qu'effectivement voilà, c'est le prochain projet en tout cas autour de Delphine Baralotto par rapport à Philippe Brass et à son écriture. On espère bien voir ça prochainement aussi. Bon, ça va mettre un certain nombre de mois je pense, mais voilà, ça fait partie des prises de rendez-vous en tout cas.
Il est important de souligner quand même que le théâtre, c'est une littérature. Enfin, moi, je le considère comme une littérature et non pas simplement comme un prétexte à jeu. Là, je me situe plutôt dans le cadre de la poésie, dans le cadre d'une écriture à part entière. Effectivement, ce n'est pas un récit, ce n'est pas un roman, c'est de la poésie, on va dire, mise en personnage. Et donc, il y a le dialogue qui se crée, il y a des conflits, mais... Le côté littéraire du théâtre, pour moi, est celui qui importe le plus par rapport à des écritures qui sont des écritures absolument efficaces sur la scène, mais qui n'ont pas de dimension littéraire. Moi, je me situe plutôt dans la tradition littéraire du théâtre. Bon, Thomas Bernhardt, des écrivains, quoi.
Je me permettrais de retourner un tout petit peu ce qui vient d'être dit. Est-ce que, et question par exemple à Patrick, qui a pris l'habitude de lire quand même pas mal de textes avec l'activité de Trajet Spectacle Pelliculture, est-ce qu'il y existe des textes trop littéraires pour être lus à l'oral ?
Non, je pense pas. Enfin, je me risquerais pas à répondre directement.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir
non,
des textes?
Non, la question elle se joue pas de cette manière-là. Je pense elle se joue sur la construction. Enfin, comment un texte finalement résonne, se met en parole entre guillemets, donc dans ce lien entre une écriture de signes et une oralisation, et comment on l'entend à un moment donné. Donc ça dépend de quantité de facteurs qui interagissent, des rythmes, des couleurs, des enchaînements de consonnes, de voyelles, de syllabes, d'agencement de mots, etc. Enfin, il y a toute une série de facteurs qui sont qui rentrent en relation et qui à un moment donné fabriquent une matière qui nous traverse plus ou moins, hein, voilà, en termes de sensibilité, d'émotion, de compréhension, etc. Et effectivement, je pense que ce qui touche dans l'écriture de Philippe Brass, c'est ce mélange, enfin c'est à la fois effectivement un texte qui est, en général des textes qui ont cette destination d'être entendus et joués, d'une part, donc ce qui fait leur théâtralité, on va dire, dans cette forme d'écriture, mais qui en même temps a une dimension poétique. Donc on parle de prose poétique ou de récit, enfin s'il y a du récit, enfin de récit poétisé, enfin avec une dimension poétique.
Dimension lyrique, même,
en tout cas, voire lyrique, oui, je ne sais pas le dire, mais par moments, effectivement. Et donc avec une dimension littéraire qui fait qu'on peut avoir autant de plaisir à le lire comme n'importe quel livre, comme roman, nouvelle, poésie, etc., sans passer par l'entremise d'un spectacle.
C'est vrai que pour lire Transit ou Eden Hotel ou Offshore, on peut apprécier cette littérature sans être forcément féru de théâtre, voilà. Sans être forcément comédien. Ça se lit pas comme un roman, mais ça se lit. Il y a une sorte d'évidence de la lecture qui est agréable, je crois, pour des gens même qui n'ont pas accès à la littérature de théâtre traditionnelle. Quoi.
Voilà, c'est ça. De toute façon, on n'est pas dans du dialogue au sens une certaine forme de théâtre classique entre guillemets, donc avec des personnages qui entrent en dialogue de toutes les manières, de toutes les lignes, on va dire. Ouais. On est dans un dialogue plus élargi, plus à la fois plus en profondeur, dans une résonance, dans un développement de des personnages, on va dire, hein, voilà. De chacun des personnages qui rentrent en jeu, voilà, par ce biais-là.
L'imaginaire, si vous voulez, l'imaginaire. Et quand même guidé, aidé par mon texte. Et on n'a pas tout à construire, on n'a pas à reconstruire la totalité d'une scène, on n'a pas à reconstruire le décor. On a des éléments de décor déjà par le texte. On peut très facilement rentrer dans ce théâtre.
Tout à fait. Et ça a une forme aussi très proche par moment de la. On peut retrouver des récits qui ont leur développement en eux-mêmes. De tout, on n'a pas toujours besoin de se relier à ce qui précède ou ce qui suit pour finalement se repérer avec effectivement une consistance à la fois sur le plan de l'écriture en tant que telle, sur le plan des images qu'on peut se construire à travers cela. Et la rentrée en relation avec chacun des personnages.
Mais je crois que c'est assez accessible. Hein. C'est assez accessible en fait à des lecteurs. Voilà. Également.
Voilà.
Je m'étais permis cette question parce que j'ai un rappel foudroyable. Je ne sais pas si le terme existe. Je vais l'inventer pour l'occasion. Donc effroyable et foudroyant d'avoir dû étudier au collège les pièces de Molière avec acte 1, scène 1 et puis là tirer et compagnie. J'entends parler depuis le début de littérature de théâtre. J'ai longtemps cru qu'on était en train de parler de ça. Et là, le descriptif que vous êtes en train d'en faire là avec Patrick se rapproche plus de quelque chose de romancé. Et donc je vais poser cette question. Qu'est-ce qui différencie un roman ou une nouvelle de ce qu'on doit appeler la littérature de théâtre ? Est-ce qu'il y a forcément des codes qui sont mis dans cette écriture pour que ça puisse être facilement théâtralisé quand même ?
Oui, alors il y a quand même la dimension du monologue ou du dialogue qui sont portés par une voix dans ces textes que j'écris comme Transit ou Offshore. Il y a cette dimension de l'oralité qui est de toute façon là. C'est vrai que ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire tous les textes? Et c'est vrai qu'il y a des textes quand même qui ont une oralité, des possibilités, qui offrent des possibilités d'oralité plus importantes que d'autres. Et donc là, le théâtre implique une oralité quand même qui soit... sans être évidente, mais qui soit présente, qui soit aussi possible de mettre en bouche par le comédien. Il y a également une forme d'énergie du discours qui fait que on ne passe pas par des systèmes descriptifs, on n'a pas des systèmes de mise en place des personnages comme dans le roman ou dans la nouvelle même parfois, qui effectivement font qu'il faut autour du personnage avoir tout un appareil descriptif qui le mette en situation. Là, la situation, elle est donnée. Elle est donnée parce qu'elle est, ça va être joué sur une scène quand même, même si ça peut se lire. Il y a des contraintes du théâtre qui sont à respecter quand on écrit du théâtre. Et ça, c'est pour ça que c'est un genre particulier. Les jeunes, par exemple, qui, dans mes ateliers d'écriture, ont envie d'écrire du théâtre, plus que de la prose poétique, par exemple, je les mets toujours en garde sur ces difficultés, on va dire, de saisir la pulsation d'une pièce. Et ça, c'est très important, de tout d'un coup être dans une oralité du personnage. Mais cette oralité fait qu'on peut quand même... avoir une écriture, c'est pas une écriture réaliste, c'est pas une écriture naturaliste. On peut faire raconter plein de choses et être dans une dimension poétique, mais il faut quand même respecter cette énergie de l'oral.
Ce qui permet effectivement à la lecture d'entendre le personnage et d'entendre la voix, ce qui est un vrai plaisir effectivement. Donc ce qui nous a particulièrement plu dans la découverte de ton œuvre effectivement, d'être ces personnages très présents, particulièrement présents, ne serait-ce que dans le cadre d'une lecture individuelle, voilà, pour n'importe quel lecteur. Voilà, ça c'est ce qui nous permet aussi de raccorder avec la question du printemps des poètes et donc de justifier l'intérêt d'un travail comme celui-ci parce qu'effectivement il a cette dimension poétique qui relie l'écriture à l'oralité. Et ça, c'est une forme. Enfin, c'est une des questions posées par la poésie, d'ailleurs, qui est pas toujours. Enfin, qu'on comprend pas par ta question que tu posais tout à l'heure par rapport au théâtre. On a des représentations un petit peu stéréotypées du théâtre, mais on en a aussi concernant la poésie. Et donc, de la même manière, donc effectivement, c'est quelque chose. C'est cette question du poétique dans l'écriture, dans la prose, dans le récit, etc. C'est une question qui est travaillée dans tous tes ouvrages et qui est un questionnement personnel, je pense, en tant qu'écrivain. Et on a envie de l'interroger à l'occasion de ces rencontres, bien entendu. Et on a envie de le faire en plus avec un autre écrivain qui a également ce type de recherche dans son travail d'écrivain, qui est Cossy et Fouy, et qui nous rejoindra pour que donc voilà, Philippe Brass et Cossy et Fouy s'entretiennent avec nous et avec tous les personnes qui pourront nous rejoindre à Châtillon et à Die autour de ces questions-là.
Voilà. Cossy étant lui-même auteur de théâtre.
Du coup, c'est difficile de définir dans tout ça, puisque tout se croise et tout se recroise.
En fait, le théâtre s'est imposé d'une certaine manière, alors que je n'attendais pas du tout. J'étais dans mon imaginaire, dans mon idée romancier. Et puis, à un moment, je me suis aperçu que toutes mes situations de romanesque que j'ai essayé d'écrire à l'époque, il y a quelques années quand même, se réduisaient à des scènes qui mettaient en présence les personnages. Et je me suis dit, mais c'est peut-être du théâtre, ça, finalement. Et j'avais pas une grande culture de théâtre. J'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup, mais je n'avais assez peu au théâtre, en fait. Et donc, là, il y a eu effectivement une prise de conscience que ce que j'écrivais, c'était du théâtre. Et que c'était aussi de la poésie. Puisque la poésie lyrique, ce qu'on appelait la poésie lyrique, c'était l'ancienne définition du théâtre. Donc je me suis dit, poésie plus scène qui rassemble les personnages dans une unité de temps, une unité de lieu, c'est peut-être du théâtre. Donc j'ai tout mêlé, voilà. Et c'est devenu donc ma première pièce, en fait. Sans passer par la scène, sans passer justement par une école de théâtre, sans passer par la pratique de la scène. D'où le côté littéraire important de de mon travail, de mes propositions de théâtre, malgré tout.
Dans cette construction, qu'est-ce que tu entends, toi, par, finalement, poésie ?
Alors, la poésie, elle n'est pas dans une recherche volontaire de faire de la poésie. On ne se dit pas, en écrivant, tiens, je vais faire de la poésie. On ne se met pas à sa table, à son papier, en se disant, là, je vais être poète. La poésie, c'est depuis le matin jusqu'au soir, même en se lavant les dents. On est poète tout le temps. Et donc... c'est un amour des mots, c'est un amour de la couleur et de la sonorité. Des mots, c'est un amour de la langue française dans son pas dans sa banalité, justement, peut-être dans ses possibilités lyriques. C'est un amour de la phrase. Quand je lis des romanciers ou de la poésie, c'est effectivement ce que je cherche, c'est cette musique, en fait, et cette couleur des mots. Si je lis Paul Claudel, pardon, Paul Claudel, c'est quelqu'un qui a cette musique des mots, même si j'aime pas toujours les thématiques qu'il aborde, mais voilà, cette forme de poésie me plaît.
D'accord, donc qui imprègne de fait toute ton écriture à partir de là.
Absolument. Ma première pièce, donc La Nuit des Baleines, qui va être éditée là au Bruit des Autres en 2012, donc qui a été jouée plusieurs fois en Allemagne et en France. Cette pièce était vraiment de la poésie. Alors là, vraiment carrément, c'était de la poésie. Ça commençait par un poème.
Il y a des formes qui portent plus ou moins.
Voilà. Ce sont trois personnages dans un bureau. Marilyn, Fenimore et Barnabas. Les deux personnages masculins, Fenimore et Barnabas, ont tué le chef de bureau qui les opprimait, qui était un salaud, on va dire. Et quand la secrétaire, la petite Marilyn, va se réveiller, elle va se rendre compte que le chef de bureau est là, allongé sous un drap couvert de sang. Et donc ils sont enfermés en haut d'une tour, dans une ville imaginaire, mais qui pourrait être une sorte de New York, hein, quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce cadavre, d'autant plus qu'il y a une intérimaire qui arrive. Donc c'est une forme de poésie qui a sa violence,
dramatisée,
qui a sa violence aussi, et son humour aussi. C'est très marrant.
Est-ce qu'on peut profiter pour casser le cliché de la poésie après avoir cassé celui du théâtre ? Est-ce que c'est de la poésie qui rime ? Est-ce que c'est de la poésie on a parlé de musicalité des mots. Souvent, les gens, la poésie, se disent oui, c'est ça, c'est les codes, les alexandrins, etc., etc. Là, on doit sans doute pas être dans ce cas-là.
Non, absolument pas. Là, c'est de la poésie tout à fait libre, évidemment. Et puis, je parlais de violence, il y a aussi poésie, ça ne rime pas forcément avec
romantisme,
idéalisme. Non, la poésie, c'est aussi dire les choses, mais simplement pas d'une manière naturaliste, les dire dans un traitement de la langue.
Oui, parce que d'autant plus que les sujets que tu abordes, c'est des sujets de société, de la société, de la vie actuelle, avec un aspect assez réaliste, assez social même, et politique d'ailleurs. Enfin, il y a toutes les dimensions effectivement qui font la vie.
Par exemple, dans Transit, donc la pièce qui a été jouée à Châtillon d'Iwa et qui va être reprise, j'imagine, dans la région.
On va s'organiser pour ça. Oui.
Les personnages sont des personnages de la réalité quotidienne. Ils vivent à Dunkerque, il y a un chômeur, il y a un retraité, il y a un soldat, il y a un Américain, il y a une jeune fille, il y a elle, il y a lui. Bon, ce sont des personnages qui sont vraiment concrets, et qui sont en instance de départ. Et ils sont pris au moment où ils quittent ce qu'ils connaissaient pour aller vers un ailleurs potentiellement dangereux, potentiellement risqué, et ils ne savent pas ce qui les attend. Et ils sont pris là à ce moment de rupture. Quel est leur moyen pour essayer de trouver un espoir dans l'ailleurs? C'est effectivement le mot, c'est le verbe. Ils essayent de trouver, de maîtriser l'avenir qu'ils ne connaissent pas, d'une certaine manière, par le mot. Et donc la langue, le langage, est en fait une manière de dompter le danger, d'essayer de maîtriser. Et si on n'a pas effectivement la langue, si on n'a pas le langage, on est beaucoup plus dans l'insécurité, on est beaucoup plus dans l'incertitude. Donc là, il y a cette espèce de rapport à la langue salvatrice, enfin le rapport salvateur à la langue.
Bah voilà, c'est le sujet de nos rencontres, très précisément. Tu l'as déjà dit, vous connaissez un petit peu avec Cossier et Fouy, vous êtes déjà rencontrés en tout cas, et on sait que vous appréciez, parce que vous êtes sur quelque chose, une quête et un travail d'écriture qui a quand même un certain nombre de points communs, notamment par rapport à tout ce que tu viens de développer, cette question de la langue, effectivement, dans le rapport à la vie et au devenir de chacun et de tous. Confronté à ce que vous interrogez aussi l'un et l'autre, chacun à votre manière, de comment le monde évolue en ce moment aussi autour de nous, dans nos sociétés et ailleurs. On ajoute à ça une dimension supplémentaire, c'est que vous travaillez tous les deux, vous interrogez en tout cas, en ce moment particulièrement, c'est le cas pour ton premier roman d'ailleurs en tant que tel, qui va apparaître, Odysseus.
L'histoire de deux poètes.
Qui est une histoire de poètes, déjà, pour commencer, et qui est des poètes qui nous permettent de traverser les temps, l'humanité, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Et ça, tu peux peut-être en dire deux mots. Sachant que juste pour faire la jonction avec Cossier et Fouy, qui est sorti l'an dernier son dernier bouquin qui s'appelle L'ombre des choses à venir, et qui interroge aussi la question de la poésie dans le long parcours des sociétés et de l'humain, et en passant par alors là, c'est ce qui vous reliera aussi, la poésie et les mythes, les symboles finalement par lesquels les uns et les autres essayent de se débrouiller pour vivre.
Voilà, oui, effectivement, dans le roman Odysseus, ce sont deux poètes qui ont des destinées absolument différentes, qui se retrouvent autour du personnage d'Ulysse, autour de l'Odyssée, chacun ayant sa propre Odyssée, son propre vécu, son propre chant. Donc ce sont en fait sept chants, on va dire, sept chants odysséens qui mettent en relation un poète grec errant qui serait un poète dionysiaque, on va dire, un poète de l'alcool, un poète de l'excès, un poète de la fête, et un poète qui lui est plus réservé, plus donc un poète parisien qui mène une vie un petit peu à l'ombre de ses livres. Et donc de cette rencontre amicale jaillit une autre interprétation d'Ulysse, de l'Odyssée, un voyage dans les mots et dans la vie.
Voilà, c'est ça.
C'est marrant, c'est un peu ce que les Occidentaux de notre côté, nous là, à côté des Français, disent des Grecs. C'est trop fêtards, qui ont dépensé de l'argent dans tous les sens, qui ont qui ont tout perdu, toute leur valeur, et de leur côté, eux, ils nous trouvent très mous, hein, quand même. Est-ce que la critique sociale va jusque-là ?
Eh bien, je ne sais pas si on peut mettre en rapport la situation économique de la Grèce actuelle. Voilà, avec...
Pas économique, plutôt la situation sociale qu'on peut quand même aussi sentir un petit peu là.
Oui, non, je pense qu'il y a des rapports à l'existence d'une manière générale qui sont très, très différents selon... Je vis en Allemagne, selon qu'on vit en Europe du Nord, par exemple, et en Europe latine ou méditerranéenne. La notion, je crois, de plaisir de la vie, les hiérarchies sont pas les mêmes. C'est vrai que traditionnellement, c'est un peu faux, parce que j'ai des amis qui sont quand même des gens qui adorent s'amuser, qui sont des Allemands, mais c'est vrai que on va mettre plutôt en avant le travail avant le plaisir. Et alors que peut-être dans des sociétés méditerranéennes, le travail est évidemment très important, mais la notion de plaisir est peut-être première, en tout cas sous le soleil, dans des paysages magnifiques, somptueux, avec des belles femmes partout.
Du vin, de la musique.
De la musique, de la bonne nourriture. On a tendance effectivement peut-être à vouloir profiter tout simplement des jours et du temps qui passe, plutôt que d'être dans le devoir toujours d'être dans le carcan d'une société qui est quand même assez, on pourrait dire, qui impose beaucoup de normes, très normatifs.
Oui, parce que la poésie, effectivement, il y a la question de la quête d'une plus grande liberté, enfin, qui est tout le temps à refaire et à recommencer. Et c'est vrai que, effectivement, l'image du, enfin, ce poète-là, en tout cas, et ce qu'on peut aussi attendre de la poésie, c'est de nous aider à cela en permanence, c'est-à-dire de nous libérer de nos contraintes, etc. Et peut-être qu'il y a une question aussi de rapport à la vie, tu en as parlé, donc sous forme d'énergie aussi, d'énergie vitale, de force, de puissance de vie, qui finalement peut s'affranchir plus ou moins des contraintes que nous imposent les sociétés.
Oui, dans le cas de l'Europe du Nord comparé à l'Europe latine méditerranéenne, je crois que le rapport aussi à la sensualité était très différent. C'est-à-dire que en Allemagne, je ne parle pas forcément de l'Europe du Nord que je connais moins, mais en Allemagne, en tout cas, on est très cérébral. Ça peut déchirer vraiment. Hein. Il peut y avoir des véritables personnalités incroyables, extrêmes, excessives, mais l'appréhension du monde va passer déjà par l'intellectuel, par le cérébral, alors que la sensualité, la joie de vivre, la joie effectivement de profiter de la vie, quoi, me paraît plus quelque chose de méditerranéen, latin.
En tout cas, c'est ce que tu évoques. Enfin, dans ton livre, c'est quand même le poète grec qui attire fortement jusqu'à l'idéaliser, on va dire, oui. Le poète parisien. En l'occurrence.
Oui, absolument. Oui, parce qu'il représente cette force vitale, cette force vitale qui effectivement échappe à l'autre peu à peu, quoi. Et ça, avec l'engourdissement des années, l'engourdissement de la vie citadine, etc., etc., ça finit par lui échapper. Et là, tout d'un coup, il trouve quelqu'un qui lui prend par la main et qui le sort de sa morosité.
J'espère que ça donnera envie de lire un peu plus Philippe Braz. On va tirer.
Et puis de t'entendre aussi, puisque nous aurons le privilège, pour ceux qui seront là, on espère être le plus nombreux possible, d'entendre des lectures de Philippe Braz, notamment de ce dernier texte, de ce
de
roman
l'auteur
Odysseus.
Par l'auteur.
Voilà, non encore, qu'on ne peut pas lire.
Non encore diffusé. Voilà, de l'inédit.
Donc de l'inédit. Et voilà, donc en partageant cela, bien sûr, avec Cossier Fouy. Donc alors. Pour les renseignements précis, donc c'est à Châtillon, vendredi, en mairie, accueilli par la bibliothèque de Châtillon, à 18h30. Et donc ensuite, il y aura un apéro, comme on a l'occasion de le faire.
Comme
on aime le faire, et qui est bien entendu, quand même particulièrement le faire, nos amis de la bibliothèque de Châtillon qui nous accueillent. Et samedi, ce sera à 10h, à la médiathèque, accueilli par l'équipe de la médiathèque départementale d'Ivoire-Vercors. Et à 15h, ça sera à 15h30. Alors attention, c'est au milieu d'après-midi, donc voilà, faut pas louper le coche. Mais voilà, on essaiera de le dire le maximum autour de Scylla.
Ben merci.
Ben, merci à vous.
On placera sur notre site les différentes maisons d'édition, ce sera intéressant. On rappellera aussi le site de Trajet Spectacle, même si les gens ont commencé à le connaître, et le numéro de téléphone, que tu peux dire quand même, si on a besoin de d'autres infos.
Pour les infos pratiques, en tout cas d'ici là, c'est 04 75 22 05 75 par téléphone, vous pouvez nous joindre.